Covidienne. Du lundi au jeudi, 30 minutes d'actu, virale et collégiale.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la Covidienne sur les ondes de Radio Campus Angers. On est ensemble pendant une demi-heure en cette fin de semaine pour discuter de l'actualité locale. Et ce soir, c'est Louis, notre stagiaire, qui a interrogé Jean-Yves Busson, qui est membre du réseau citoyen de surveillance de la radioactivité. Car vous vous rappelez peut-être des articles qui étaient parus au printemps-été 2019 autour des fuites de tritium, cet élément radioactif qui avait eu lieu dans la Loire. Eh bien Jean-Yves Busson est revenu sur ces phénomènes et plus généralement sur le danger du nucléaire pour l'environnement dans la région. On écoute ça tout de suite. Très bonne émission à toutes et à tous.
Bonjour Jean-Yves Busson, vous êtes membre du conseil d'administration de l'atelier citoyen, membre aussi du réseau citoyen de surveillance de la radioactivité dans le bassin de la Loire, et aujourd'hui, vous allez nous parler d'environnement. Vous avez envoyé un mail donc il y a quelques semaines auparavant sur la quasi-permanence d'une activité radioactive dans les eaux des pays de la Loire. Donc est-ce que vous pourriez d'abord vous présenter, vous, votre parcours et ce pourquoi vous êtes dans ces associations ?
Oui, donc Jean-Luc Buffon, je participe depuis quelques années effectivement à des activités à la fois autour de la citoyenneté, l'expression citoyenne au niveau local à travers l'atelier citoyen, mais aussi sur tout ce qui touche aux activités liées au nucléaire et à l'impact sur l'environnement depuis quelques années dans le cadre d'actions collectives. Que ce soit au niveau du groupe Angevin Sortir du nucléaire, 49, ou plus largement maintenant à l'échelle du bassin de la Loire, dans le cadre d'un collectif qui s'appelle Loire-Vienne Zéro Nucléaire. Et c'est dans ce cadre que nous avons été amenés à constituer un réseau citoyen de préleveurs. Ces prélèvements se font de manière assez précise, même si ça reste une technique assez rustique, on va dire. On a été formé par notre partenaire scientifique, donc le laboratoire de l'ACRO, l'Association pour le contrôle de la radioactivité dans l'Ouest. Ils sont agréés pour ça, et donc ils ont une technique qui a été contrôlée par l'IRSN. Ces prélèvements se font par descente en Loire à partir d'un pont, d'un récipient, d'une bouteille qui permet, quand elle est, une fois qu'elle a été correctement rincée, de ramener un échantillon d'eau, tout simplement, qui est prélevé entre deux eaux et qui permet de remplir des petits flacons qui vont être envoyés ensuite à la croupe pour analyse.
Et justement, avec ces analyses, qu'est-ce que vous avez trouvé dans cette eau des Pays de la Loire ?
Alors, en fait, l'idée, c'était de surveiller les doses de radioactivité qui proviennent des effluents radioactifs rejetés par les cinq centrales du bassin de la Loire. Et donc ça va être du carbone 14 un petit peu, parfois de l'iode radioactif, mais surtout du tritium qui est l'hydrogène radioactif qui est produit de manière permanente par les centrales et donc rejeté sur autorisation de l'État. Hein. Rejeté en permanence dans les fleuves. L'idée, c'était de savoir s'il y avait notamment des pics de pollution, plus de la pollution en permanence qu'on trouve dans cette île.
Et pourquoi est-ce que le tritium est dangereux, justement ?
La dangerosité, elle est questionnée, en fait. Parce que l'idée défendue par le lobby, par l'État, par les administrations, c'est de dire que c'est une très faible puissance de radiation et que donc il n'est pas dangereux. Et que donc on peut boire de l'eau tritiée à longueur d'année sans problème, tant qu'on reste en dessous d'une norme très élevée édictée par l'OMS. Or, nous, ce qu'on constate en écoutant les scientifiques qui travaillent sur le tritium, c'est qu'il y a une très probable sous-estimation du risque lié à l'hydrogène radioactif, parce que sa particularité, c'est qu'ils se combinent à l'eau pour devenir justement une eau radioactive que notre corps va utiliser jusqu'au cœur des cellules. Et c'est un peu comme un cheval de Troie radioactif qui peut rentrer dans les cellules de notre organisme et s'approcher des noyaux. Et quand il est proche d'un noyau et qu'il émet une radiation, le tritium devient dangereux puisqu'il est mutagène. En fait, hein, il va abîmer ou casser le matériel chromosomique et potentiellement donner lieu à des tumeurs.
Donc il y a quand même des risques très importants pour notre santé à cause de ce tritium.
Et bien, on ne peut pas affirmer qu'il y a des risques très importants, mais nous, on tire une sonnette d'alarme en disant ce risque, on ne le connaît pas assez. Et il est sans doute sous-estimé pour des raisons très pragmatiques qui sont que les centrales EDF doivent se débarrasser de ces effluents de tritium. Et que la seule manière de s'en débarrasser pour lui, c'est de les rejeter dans les rivières.
Oui, oui, c'est ce que vous nous écriviez, parce qu'en fait, il n'y a finalement que cette solution pour les centrales nucléaires, c'est de uniquement le rejeter. Et vous dites que même si on voulait, ça serait peut-être difficile de le filtrer et de le conserver dans un autre lieu.
Alors, il y aurait d'autres possibilités. Il pourrait y avoir la possibilité de le stocker, puisque le tritium perd la moitié de sa radioactivité en 12 ans et demi. Donc si on a 100 de tritium à un moment donné, on aura 50 dans 12 ans et demi, et on aura 25 dans 25 ans, et ainsi de suite. Et donc si on le stockait, à la limite, on pourrait le laisser, sauf que ça fait des volumes énormes chaque année, et que la solution de facilité, c'est de l'envoyer en Loire. En termes de filtration, et c'est une autre possibilité, j'ai appris récemment que Veolia notamment vendait aux Japonais des solutions pour détritifier, je crois que c'est comme ça qu'on dit, de l'eau. Et le problème, c'est que qu'est-ce qu'on fait de la patate chaude? Une fois qu'on a enlevé le tritium de l'eau, qu'est-ce qu'on fait de ce tritium dont justement on cherchait à se débarrasser dans l'environnement? Qu'il récupère, enfin, on s'en sort pas en fait.
Même si ce tritium ne se retrouve pas dans l'eau et qu'on arrive à le mettre autre part, il sera toujours dangereux et provoquera toujours des dégâts pour l'environnement.
Il a été produit et à un moment, il faut pouvoir s'en occuper, quoi. Et donc la seule manière qu'on a trouvé pour l'instant, c'est de le diluer dans les eaux, que ce soit en mer pour les centrales en bord de mer ou à La Hague par exemple. Pour les centrales sur rivière, c'est dans les rivières, dans les fleuves. Si on le filtre pour le récupérer, on revient au problème de départ qu'avec quoi qu'a EDF, c'est qu'il a produit des jus concentrés en tritium et qu'il doit s'en débarrasser. Donc on s'en sort pas, quoi. Il faudrait ne pas en produire. Donc, c'est un peu la solution qui me paraît la plus raisonnable.
D'accord. Et donc, est-ce que vous voyez, vous, des solutions à court ou à long terme pour justement éviter de produire ce tritium?
La seule manière de pas en produire, c'est d'arrêter le nucléaire. Ça, c'est une chose très claire et on voit maintenant de plus en plus se développer des solutions alternatives. Il est temps de prendre conscience de l'hérésie et de l'impact que constitue à nos yeux cette production. En attendant, tant qu'il en est produit, nous on pense qu'il y a des choses à faire pour limiter l'impact, notamment sur les populations qui boivent, les centaines de milliers de personnes qui boivent cette eau à longueur d'année avec une imprégnation permanente. Et ce serait déjà de peut-être diminuer les normes de potabilité.
Oui, parce que c'est ce que vous nous écriviez, je crois que l'OMS pense que le tritium ne serait pas dangereux tant qu'il n'arriverait pas à 10 000 becquerels par litre. Alors déjà, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu ce qu'est le becquerel, cette manière de mesurer justement le tritium?
Oui, alors c'est pour tout corps radioactif, en fait, un becquerel, c'est une radiation par seconde. Et donc on va pouvoir mesurer des becquerels par litre, c'est-à-dire le nombre de radiations par litre par seconde. En moyenne, pour donner une idée, en Loire, on boit une eau dans laquelle il y a 20, 30, 50 becquerels, c'est-à-dire 50 radiations par litre et par seconde. Si vous imaginez ça la nuit, on imagine que c'est une radiation phosphorescente, ou fluorescente, ça ferait 30 scintillements par seconde dans votre bouteille d'eau que vous regardez dans le noir quelque part. C'est pas rien quand même. Hein.
D'accord.
Je sais pas si on le boirait si facilement si on voyait d'ailleurs ce qu'il y aurait. C'est un autre problème. Effectivement, la norme qui a été édictée par l'OMS dit que on peut boire de l'eau jusqu'à 10 000 becquerels par seconde. Et le problème, c'est qu'ils se sont basés pour édicter cette norme sur un raisonnement que dénonce la CRIRAD, qui est l'autre laboratoire indépendant par rapport à l'ACRO. Et l'ACRO, d'ailleurs, a le même discours. On part sur un postulat faux, c'est-à-dire que ils ont fait comme si on était irradié par le système. Alors c'est vrai que comme c'est un élément qui a une très faible puissance, à l'extérieur de la peau ou dans l'intestin, comme ça, le tritium ne va pas avoir d'incidence. Il y a quelques microns de radiation ne vont pas faire de dégâts. Le problème, c'est que c'est un postulat faux, et c'est ce que dénonce ce laboratoire, et ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, au cheval de Troie que constitue l'eau tritiée, en fait, et qui va permettre à l'hydrogène radioactif de rentrer au plus près des noyaux. Et c'est ça qui n'est pas assez étudié et qui fait qu'à nos yeux, la norme de 10 000 becquerels de l'OMS, elle est totalement inopérante et même scandaleuse.
Et vous battez justement pour que cette dose de becquerels arrive à peu près à combien?
La CRIRAD, par exemple, demande que le seuil de potabilité soit rabaissé à 20, voire 10 becquerels par litre. C'est-à-dire que les exploitants d'eau potable s'entendent avec EDF pour ne prélever de l'eau que quand elle leur arrive à moins de 10 becquerels par litre. Ce serait déjà un grand progrès.
Parce que c'est ce que vous nous écriviez aussi, finalement. Donc il y a quand même des gens qui filtrent leur eau, qui achètent de l'eau en bouteille. Et pour vous, ça aussi, ça reste toujours pas la bonne solution quand même.
Alors, la filtration, notamment avec les meilleures solutions techniques qui sont disponibles pour tout un chacun, à savoir l'osmose inverse, des osmoseurs, cette filtration, elle ne joue en rien sur l'eau tritiée, hein, puisque de l'eau et de l'eau, radioactive ou pas, on ne peut pas les séparer. Donc, un bon osmoseur va quand même laisser passer l'eau tritiée, donc ça, c'est pas une solution du tout. Et par contre, l'eau en bouteille, c'est une autre catastrophe écologique, donc et puis c'est une espèce de fuite en avant, quoi, hein, donc ça ne me semble pas être non plus.
Ça serait remplacer, en fait, finalement, le problème de ce tritium par un autre problème et une autre catastrophe écologique.
Oui, d'une part, et d'autre part, ce serait aussi ignorer complètement le sort réservé aux êtres vivants non humains qui consomment cette eau, en Loire notamment, à longueur d'année. Ça nous concerne peut-être moins pour notre santé, mais il y a des éléments végétaux, animaux qui sont dans ce bain pollué. Et c'est notre bien collectif, la Loire. Hein. C'est vraiment, ça dépasse de loin les petites activités humaines. Donc c'est quelque chose à défendre aussi à ce niveau-là.
Donc vous expliquez donc qu'il y a aussi des risques au-delà de juste pour notre santé à nous, des risques aussi pour notre environnement et notre faune, notre flore qui est quand même assez riche dans les pays de la Loire.
Bien sûr, tout le monde se targue de cette Loire, dernier fleuve sauvage d'Europe, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Mais pourquoi on se permet d'en faire un égout quelque part? Mais quand bien même c'est sur base d'autorisation par les services de l'État. Hein.
Il y a, je crois, sur la Loire et sur la Vienne, 6 centrales nucléaires. Et on sait quand même que l'énergie nucléaire aujourd'hui en France, d'après les derniers chiffres, elle correspond à peu près à 70% de l'électricité qu'on produit. Est-ce que, justement, vouloir arrêter le nucléaire, c'est pas aussi arrêter d'avoir un mode de vie comme on se le permet aujourd'hui?
Alors déjà, il faut savoir que le nucléaire pourrait être remplacé par d'autres solutions, notamment si on avait affecté des fonds de recherche suffisants, parce que le nucléaire a beaucoup avalé des fonds qui auraient pu être utilisés pour mettre au point des systèmes de stockage d'énergie, pour mieux valoriser les énergies intermittentes et renouvelables que sont l'éolien, le solaire, hein, notamment. Ça, c'est de l'argent qu'on n'a pas eu pour faire ça, et qui manque maintenant et qui nous fait prendre un retard énorme. Il y a des scénarios très sérieux, notamment produits par l'ADEME, produits par Virage Énergie Climat, et qui montrent que le 100% renouvelable pour l'électricité est tout à fait envisageable. Hein. Il faut s'en donner les moyens.
Et comment on pourrait s'en donner les moyens, justement? Qu'est-ce qui serait possible de mettre en place?
En investissant dans la recherche-développement pour des solutions qui vont travailler à la fois sur les appareils de production en renouvelable, mais aussi sur les solutions de stockage. Ça peut se faire à l'échelle de la région, ça commence d'ailleurs. Et c'est vrai que c'est une marche en cours. On a d'ailleurs vu récemment le seuil du nucléaire passer en dessous de 50% certaines journées. Et le gestionnaire de RTE, la filiale de l'électricité du réseau, disait que c'est une situation qu'on va être amené à observer de plus en plus fréquemment. L'objectif 2030, c'est de moins de 50% nucléaire. C'est déjà une réalité sur certaines journées, les journées de plus en plus fréquentes. Et je crois que c'est la bonne voie.
Et vous appelez aussi, donc pas seulement à changer nos méthodes de consommation, mais aussi à vraiment avoir une véritable prise de conscience sur finalement ce que le nucléaire amène comme inconvénient à la fois sur l'environnement. Donc, comme je l'ai dit, vous faites partie de l'atelier citoyen et du réseau citoyen de surveillance de la radioactivité dans le bassin de la Loire. Est-ce que grâce à ces associations, il y a eu des choses qui ont changé?
Alors, surtout par le biais de ce réseau citoyen de surveillance, là, mis au point avec une forme d'alerte, hein, quelque part, on a pour la première fois fait émerger cette problématique tritium au sein du grand public, notamment avec la mesure de janvier 2019 qui montrait un taux à 310 becquerels par litre à son mur. Et donc, ça a été l'émergence d'une vraie problématique qui était totalement ignorée. Je crois qu'il y a une forme de politique de l'autruche vis-à-vis des dangers du nucléaire en France, et qui fait qu'on avait mis sous le boisseau, quelque part, cette problématique tritium qui pourtant existe depuis l'origine des centrales, puisqu'elles en ont toujours produit. Et donc, ça a au moins permis ça. Et je pense que les choses sont en train de bouger, les lignes bougent petit à petit. Et on s'aperçoit que ce n'est pas une énergie propre, il ne faut pas dire ça. On va léguer des déchets à haute radioactivité qui vont durer plusieurs dizaines de milliers d'années. On lègue ça aux générations suivantes, c'est totalement irresponsable. Et en plus, pour nous, actuellement, c'est une pollution permanente par des produits peut-être un peu moins énergétiques, mais qui ont sans doute un impact sur le vivant non négligeable. Et sans parler du risque d'accident qui réduirait des régions à l'état de mort économique et humaine. Hein. Donc, effectivement, ça fait partie des choses qu'il faut avoir en tête et que les mouvements citoyens doivent être là pour rappeler. Hein.
Et est-ce que vos associations recrutent de nouveaux membres?
Bien sûr. Alors, c'est vraiment des démarches collectives. Hein. Tout ce qui s'est fait au niveau du bassin de la Loire, c'est assez original d'ailleurs en France. Hein. Je pense que 13 groupes locaux qui se réunissent très régulièrement. Chaque groupe local a besoin de beaucoup de forces vives, évidemment, et de connexions avec Greenpeace, avec d'autres associations qui, localement ou nationalement, luttent pour faire connaître ces problématiques et aider à les résoudre. Donc il y a besoin de forces vives, notamment chez les jeunes. C'est important d'assurer une relève d'une militance qui est un peu.
Et pour qu'ils savent à peu près à quoi s'attendre, est-ce que vous pourriez décrire un peu, vous, quel a été votre rôle dans ces réseaux citoyens?
Non, j'ai pas eu un rôle particulier. Moi, j'ai beaucoup appris depuis 7-8 ans que je fréquente un peu les associations. J'ai énormément appris des autres. On s'aperçoit que il y a, même si un ou deux sont amenés à un peu plus intervenir médiatiquement, c'est vraiment une démarche très collective, et c'est ce qui est intéressant. C'est un travail d'équipe. C'est très stimulant, là, les réunions à l'échelle de tout un bassin comme la Loire. Chacun apporte sa pierre et il n'y a pas de... Je crois que c'est là qu'on trouve l'intérêt à y participer aussi. Hein.
Et vous cherchez pas de profil type, tout le monde est le bienvenu?
Et ce qu'il faut rechercher, c'est l'envie d'agir, en fait. On est passé maintenant, c'est un peu derrière nous, cette phase de prise de conscience. On se rend compte qu'on sait les choses, c'est pareil pour le réchauffement climatique, on sait les choses et maintenant il faut trouver des solutions pacifiques, mais radicales et engagées qui permettent de faire bouger les lignes. Et donc, je crois que l'engagement est vraiment la notion au cœur, quoi. Et l'engagement est l'envie d'agir, hein, quelque part.
Je crois que aussi ces réseaux citoyens appellent aux dons justement pour avoir une façon d'agir encore plus ample. Est-ce que vous pouvez nous préciser un peu à quoi servent ces dons dans les réseaux citoyens?
Alors, il faut distinguer les dons qui peuvent être liés à une adhésion, voilà, ou là c'est des dons qui vont rentrer dans le fonctionnement, hein, notamment par exemple pour la commémoration de 10 ans de Fukushima, il y aura une manifestation le 13 mars là, à Nantes, un samedi après-midi. On va financer des bus, les gens peuvent s'inscrire pour y participer. Le réseau national va financer en partie ces transports et c'est voilà une manière concrète d'utiliser les dons qui auront été envoyés au niveau du national. Après, il y a aussi un financement qui est demandé, qui va être demandé pour ce fameux réseau de préleveurs, parce qu'on se rend compte qu'on ne fait pas assez de choses, on fait un prélèvement tous les mois à Saumur, c'est pas suffisant, et donc on a envie d'intensifier un peu pour mieux comprendre notamment la dynamique de panache de polluants quand ils sortent de la fameuse clarinette là, au niveau de chaque centrale, quand ils sont évacués dans le fleuve. Il y a une mauvaise dilution qui se fait, en fait. La Loire ne s'est pas diluée. Et en fait, on a envie de mieux comprendre comment ce panache de polluants va s'étirer. Enfin, il y aura un financement demandé pour pouvoir payer les analyses que l'ACRO fait jusqu'à maintenant de manière bénévole.
Et est-ce que nous, à notre échelle, on peut aussi agir personnellement afin de limiter ces risques?
Alors, avoir la main sur le risque tritium, hélas non, parce que tout est entre les mains d'un industriel et des autorisations qu'il a pu négocier. Par contre, moi je pense qu'il est très important pour chaque citoyen d'utiliser les permanences de son sénateur, de son ou sa députée, aller contacter aussi les représentants au niveau des syndicats des eaux dans les collectivités locales, pour leur expliquer ce problème, s'emparer un peu des articles qu'ils ont pu lire, comprendre la problématique sociale et aller la porter auprès des décideurs pour la fabrication de l'eau potable, les décideurs politiques qui ont un rôle à jouer au niveau national, et faire une forme de lobbying citoyen intelligent qui fait avancer la connaissance de cette problématique, parce que la décision, elle est politique avant tout. Hein, et c'est vrai que nous, sur ces aspects-là, on ne peut pas faire grand-chose, hein, à part justement aller porter cette parole.
Alors, est-ce que vous pouvez aussi nous parler justement de la commission locale d'information et à quoi elle sert?
Oui, alors effectivement, c'est une autre forme d'expression citoyenne, quelque part, hein, qui a été instaurée par les pouvoirs publics il y a déjà pas mal d'une quinzaine d'années, je crois. Chaque centrale nucléaire est concerné par une CLI, c'est-à-dire que le pouvoir politique local, en l'occurrence le conseil départemental d'Indre-et-Loire, la Cour Chimon, doit mettre en place une commission locale d'information dans laquelle plusieurs dizaines de titulaires vont siéger. La moitié de ces titulaires sont des élus locaux, des maires ou des députés, des sénateurs, et l'autre moitié se répartit entre des collèges de personnes expertes, un collège de personnes expertes, un collège de syndicats, de syndicalistes en fait, représentants syndicaux, et un collège associatif auquel j'appartiens au même titre que d'autres collègues et amis d'associations. Et c'est l'occasion de pouvoir déjà savoir comment fonctionne la centrale. EDF est tenu d'informer, porter un peu les
voix citoyennes.
Tout à fait. Et donc c'est quand même intéressant, ça nous a notamment permis de pousser cette problématique chrétienne dans des instances où on est quelque part obligé d'être écouté et il y a obligation de nous apporter des réponses.
Donc c'est un organe un peu plus officiel que
tout
celui...
Voilà. C'est une obligation.
Eh bien, merci beaucoup, Monsieur Busson. C'était très intéressant. On peut vous rejoindre sur votre site internet du réseau citoyen de surveillance et de la radioactivité dans le bassin de la Loire. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et à bientôt.
Merci à vous.
Au revoir.
Au revoir.
Sur les ondes de Radio Campus Angers. À l'instant, vous aurez bien évidemment reconnu le classique Bella Ciao, réinterprété par les Dub Shepherds. Il va être quant à nous l'heure de nous quitter. Ce soir, vous retrouverez à 20h Technis pour une spéciale autour du label You Shall Not Fade. À 21h, c'est DJ Quanks qui s'attaque à Daft Punk au cours d'un mix dédié. Et voilà, ce sera tout pour nous cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles Covidiennes. D'ici là, portez-vous bien. Très bonne soirée, très bon week-end sur les ondes de Radio Campus.